Alors, que vous soyez chrétien ou non, que l'on soit chrétien ou non, des fois la vie c'est dur. C'est pas vrai? Et où trouver le courage pour faire face à ces difficultés, à ces épreuves et continuer malgré tout? Où trouver le courage? Où trouver les forces pour continuer quand ça va mal? On a commencé à parler de ce psaume, psaume 84, depuis la semaine dernière. Et je vous disais que ce psaume, on l'appelle parfois le chant du pèlerin. C'est un psaume qu'on chantait vraisemblablement à l'époque où il y avait un temple à Jérusalem et que les Israélites venaient parfois de loin pour aller rendre un culte à Dieu au temple. Et on avait comparé la situation de tout être humain à celle d'un pèlerin. En fait, c'est saint Augustin qui nous donne cette idée en disant que l'homme est un pèlerin dans le monde. Et je vous rappelais aussi la semaine dernière qu'un pèlerin, c'est pas quelqu'un qui vagabonde, qui erre, qui n'a pas de but dans son voyage. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui va quelque part. Et je vous posais la question la semaine dernière, est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous avez identifié la cause de votre insatisfaction profonde? Est-ce que vous avez mis les bons mots sur cette insatisfaction, sur ce manque de contentement? Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le besoin fondamental de tout homme, le désir profond en réalité de tout homme, qu'il en ait conscience ou non, mais c'est mieux s'il en a conscience, c'est de retrouver sa communion, sa relation avec son Créateur. Et on avait dit ceci, hein, la leçon de la première strophe de ce psaume, c'était la suivante, que nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle avec lui, encore une fois, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, elle a été rendue possible, cette relation avec Dieu, grâce à la venue de Jésus. Grâce à qui il est et ce qu'il a fait. Et on avait vu notamment que l'objet du désir du psalmiste au début, on a l'impression que c'est un lieu géographique. C'est le lieu où se trouve le temple, là où il va pouvoir rendre un culte à Dieu. À son époque, hein? C'était avant la venue de Jésus, tout ça. Et on avait vu qu'en réalité, ce qu'il désirait, en fait, c'était pas un lieu géographique, mais c'était la présence de Dieu qui était représentée par ce lieu, qui était représentée par les rites que l'on accomplissait au temple, qui étaient représentés par les sacrifices, c'était cette relation-là, intime et personnelle, c'est ça qu'il recherchait profondément. Et nous avons vu la semaine dernière que tout cela a été réalisé parfaitement, de façon définitive, suffisante, par Jésus, par sa venue, par sa mort et par sa résurrection, au profit de tous ceux qui lui font confiance. Et c'est pour cette raison que le lieu de culte que désire le psalmiste au début de ce psaume, aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus pour la simple et bonne raison qu'il n'a plus lieu d'être, puisque le lieu de rencontre avec Dieu, ce n'est plus un édifice, ce n'est plus un autel où on va accomplir des sacrifices. Le lieu de rencontre avec Dieu, c'est Jésus en personne, ressuscité, vivant aujourd'hui, et qui peut réaliser cette réconciliation entre un homme et son Créateur. Mais maintenant, dans la deuxième strophe qu'on va lire, le pèlerin, ou le psalmiste, le chanteur, l'auteur de ce texte, il s'est mis en route, il est en chemin. Il a reconnu l'objet de son désir, il a reconnu son besoin profond, qui est celui d'être en relation avec Dieu, et il a engagé toute sa personne dans cette direction. C'est son but. Il voit où il va. Il voit en tout cas où il veut aller, où il veut se retrouver à la fin de son voyage. Et ce voyage a commencé. Et vous aussi aujourd'hui, puisque vous êtes des êtres humains vivants, je peux vous dire que votre voyage a commencé, votre pèlerinage a commencé et il n'est pas terminé parce que vous êtes encore vivant. Votre vie est une sorte de pérégrination. Il y a eu un départ, mais il y aura aussi une arrivée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes non seulement un pèlerin en voyage, mais qu'en plus, comme le psalmiste, vous savez aussi, vous, où vous voulez aller. Vous savez aussi, peut-être parce que vous étiez là la semaine dernière, que ce que vous recherchez au plus profond de vous-même, c'est bien cette relation personnelle et vivante avec Dieu. Mais voilà que le chemin est difficile. Voilà que le voyage est éprouvant, parsemé d'obstacles, de difficultés, d'épreuves. Combien de fois déjà? Et je parle à des chrétiens ici. Combien de fois déjà? Êtes-vous tombé dans le doute? Combien de fois avez-vous hésité? Combien de fois avez-vous fait marche arrière, un pas en avant et trois, quatre pas en arrière? Combien de fois? pour moi, je peux vous dire que c'est arrivé plein de fois dans ma vie chrétienne. Combien de fois est-ce que vous avez eu l'impression déjà de vous éloigner de Dieu plutôt que de vous rapprocher de lui? Pour toi, est-ce qu'on n'est pas censé se rapprocher de Dieu chaque jour? Combien de fois est-ce que vous avez eu l'impression de faire le voyage inverse? Combien de fois vous êtes-vous déjà demandé s'il pouvait finalement y avoir du progrès dans votre relation avec le Seigneur? Peut-être que finalement, il faut se contenter de cette relation médiocre qui ne vous satisfait pas. Ce qui est frappant dans le texte qu'on est sur le point de lire, et j'espère que vous allez le remarquer, le ressentir quand je vais lire le texte, c'est que le psalmiste, celui qui écrit ce texte, le poète, lui, il semble très confiant. Très confiant dans son pèlerinage, dans son voyage, très confiant dans ce qui est en train de se passer dans sa vie, et cela malgré le fait qu'il va traverser des obstacles. Mais lui, il a l'air super confiant. Comment est-ce qu'il peut être si sûr d'arriver à destination à la fin? Comment est-ce qu'il peut être si sûr, celui-là, d'avancer dans le bon sens? D'où lui vient cette détermination dans sa marche qui nous manque à nous aujourd'hui? Et je vous avais dit la dernière fois que ce psaume, on pouvait le diviser en trois strophes. Il était question d'abord de la destination du pèlerin, puis de sa détermination, puis de la direction qu'il va prendre. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et la réponse à cette question, d'où lui vient cette détermination, d'où lui vient ce courage, d'où lui vient cette persévérance, la réponse à cette question, tenez-vous bien, elle se résume à une phrase, c'est celle qu'il nous livre au tout début du texte, vous allez voir, où il dit « Heureux les hommes dont la force est en Dieu ». Et vous allez voir que la leçon de ce texte est la suivante « Heureux les hommes dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu ». Heureux les hommes dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu. Ceux-là savent ce qui compte dans la vie. Ceux-là ont changé de perspective sur les épreuves. Et ceux-là, comme on va le voir, s'appuient constamment sur des promesses qui sont parfaitement fiables. Alors vous êtes prêts? On va lire le texte. Psaume 84. On reprend au début. Donc on va relire la première strophe et ensuite on lira la deuxième et je m'arrêterai à la fin de la deuxième strophe, c'est-à-dire au verset 9. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi, et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Pause. Deuxième strophe. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Ces pauses indiquent des pauses dans le chant. Ce sont des indications musicales, si vous voulez, pour l'époque où il chantait ces psaumes. Et donc c'est ça qui nous permet de dire qu'il y a bien trois strophes dans ce psaume. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Merci beaucoup pour ta parole, Seigneur. Utilise-la maintenant, s'il te plaît, pour nous édifier, pour fortifier notre foi. Accomplis ton œuvre, ta volonté dans notre vie, par la puissance de ton esprit, s'il te plaît. Et au nom de Jésus, amen. Heureux donc les hommes dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu. Première chose que ce texte nous dit, au sujet de ceux dont la force est en Dieu, verset 6, c'est qu'ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, bien sûr, dans le contexte du psaume, celui qui était en train de chanter la deuxième strophe, c'est celui qui a chanté la première en premier, d'accord, avant. Et donc, c'est celui qui sait que la bonne destination, c'est, enfin, la bonne destination, ce qui va vraiment satisfaire son mécontentement profond, ses frustrations profondes, c'est cette relation personnelle et vivante avec Dieu. Et donc, celui-là, il a engagé toute sa vie sur ce chemin. Pour lui, il ne fait pas de doute. Moi, celui qui chante, il pourrait dire « Moi, je sais où je vais ». Je veux être en relation avec Dieu. Il a exprimé ce désir de façon très très forte dans la première strophe. Il a mis les bons mots sur son besoin fondamental. Il sait que le trou dans son cœur, il a la forme de Dieu, et donc qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce trou. Son besoin fondamental, c'est un besoin, ou le besoin, de Dieu. Et donc, pour celui-là, les choses sont claires. Il sait ce qui compte dans la vie. Il sait qu'il n'y a rien de plus important que d'être dans cette relation personnelle et vivante avec Dieu. Il sait qu'il n'y a rien de plus important que d'appartenir à la maison, à la famille de Dieu. Et cela pour toujours, puisqu'il l'a dit au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui ont cette relation personnelle, intime avec Dieu pour toujours. » Une relation permanente. D'accord ? Alors celui qui chante, il sait ce qui compte dans la vie. C'est pour cette raison que dans son cœur, les chemins sont tout tracés. Les choses lui apparaissent clairement. Parce que sa vie, toute sa vie, est orientée par cette priorité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un jeu télévisé qui a été très populaire, peut-être qu'il l'est encore, qui s'appelle Pékin Express. Vous en avez peut-être déjà au moins entendu parler. Dans ce jeu, les candidats ont un but précis. Alors à l'origine, la première édition de ce jeu, ils devaient partir de Paris et rejoindre Pékin, d'où le nom Pékin Express. Mais pour faire ce voyage, les candidats du jeu n'avaient droit qu'à 1 euro par jour. Ok ? Ressources limitées, destination claire, mais ressources limitées. Du coup, à votre avis, comment est-ce qu'ils décidaient ce qu'ils allaient acheter avec 7 euros par jour, 1 euro par jour ? Ils allaient acheter des bonbons, des malabars ? Non, ils allaient voir la meilleure façon possible de dépenser cet argent pour qu'ils puissent progresser sur leur chemin, sur leur route. Et du coup, dans ce jeu, tout ce que ces candidats avaient en argent, en temps, en ressources diverses, ils l'investissaient dans la réalisation de leur objectif. Donc vous voyez, ils avaient des chemins tout tracés dans leur cœur. Ils savaient où ils allaient et tout ce qu'ils faisaient au cours du jeu était conditionné par l'objectif qu'ils recherchaient. Et quand venait le moment d'un choix, ils le faisaient toujours en fonction de cet objectif. Encore une fois, pour eux, les chemins sont tout tracés. Et c'est la même chose pour le psalmiste ici. Il sait quelle est sa destination et il a sans doute conscience que ses ressources sont limitées. Mais tous ses choix, toutes ses décisions, il les prend en fonction de sa destination, en fonction de cette priorité. C'est ce qui explique cette phrase. Les hommes dont la force est en Dieu, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et de la même façon, si nous, à notre tour, nous avons reconnu un jour, peut-être la semaine dernière, ou peut-être depuis longtemps, si nous avons reconnu quel était le besoin fondamental de notre vie, si nous avons compris que Dieu avait rendu possible notre satisfaction profonde, si nous avons compris qu'il l'a rendu possible par Jésus-Christ, par son œuvre, par sa mort et sa résurrection, alors notre objectif, l'objectif de notre vie devient clair, notre destination devient claire. C'est pas à droite, à gauche, derrière que je vais, c'est là-bas. C'est auprès de Dieu, c'est le même objectif que celui de l'apôtre Paul quand il dit dans le Nouveau Testament, il dit ceci, mon but, ma destination, mon but, mon objectif est de le connaître, de connaître Dieu, de connaître Christ, lui, dit-il, ainsi que la puissance de sa résurrection. Et dans ce même texte, Paul explique que par conséquent, il dit ceci, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Il a dans son cœur des chemins tout tracés, l'apôtre Paul. Il sait ce qui compte dans la vie. Le reste, c'est utile. On peut faire plein de choses avec 1 euro par jour. Enfin, plein, peut-être pas, mais on peut en tout cas en imaginer des choses qu'on peut faire avec 1 euro par jour. Mais tout ça, pour Paul, c'est une perte finalement. En fin de compte, ça ne vaut pas comparé à l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Comparé à cette possibilité qu'a un homme d'être en relation personnelle avec son Créateur et pour l'éternité. Les hommes qui ont compris ça, ils ont donc des chemins tout tracés dans leur cœur. Les choses sont claires. Ils savent ce qui compte dans la vie. Quand vient le moment d'un choix, par exemple, entre aller à l'église le dimanche ou aller à un barbecue avec ses collègues, le bon choix s'impose. En tout cas, il cherche à s'imposer le bon choix. Je sais ce qui compte dans la vie. Il y aura d'autres occasions d'aller à un barbecue avec mes amis. Mais aller à l'église, apprendre à connaître Dieu, me retrouver avec d'autres chrétiens, louer Dieu qui m'a créé, qui m'a racheté, ça compte plus. Je sais ce qui compte dans la vie. D'accord? Celui donc qui a sa force en Dieu, celui dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu, c'est celui qui investit ses ressources, son temps, son énergie, l'investit en Dieu, si j'ose dire, parce que son but à lui, par-dessus tout le reste, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul, son but est de connaître Dieu. Et ce texte nous montre aussi que cette dépendance volontaire de Dieu, quelque part, le fait d'avoir une vie radicalement conditionnée par Dieu, permet aussi de changer radicalement notre perspective sur les difficultés de la vie. C'est le deuxième point qu'on a au verset 7. Ici, le psalmiste parle de gens qui traversent la vallée du Baca. La vallée du Baca, ça veut dire la vallée des larmes, la vallée de la tristesse, la vallée du chagrin. D'accord ? La vallée de la souffrance. Et ces gens-là, ils traversent cette vallée et ils la transforment en oasis. Un lieu de voyage de noces. Alors, au départ, c'est une vallée horrible, la vallée du Baca. Et puis, ils en font une destination de rêve. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'exagère pas, là, ce poète ? Je ne vais pas trop me répéter, mais souvenez-vous que les gens qui chantent ce psaume, ils savent où ils vont. Ils savent quelle est la destination idéale de leur vie. Ils savent qu'ils sont dirigés vers Dieu pour le connaître, pour passer l'éternité avec lui. Et donc, leur voyage, ce n'est pas un vagabondage, c'est un voyage qui a un but précis. Et du coup, quand sur le trajet, ils traversent une vallée pas très agréable, pour eux, c'est pas difficile d'en faire un lieu où ils vont être joyeux quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'endroit où ils sont, c'est pas leur destination finale. Ils savent que c'est une étape du voyage. Ils savent même qu'au moment où ils traversent cette vallée des larmes qui est sur leur trajet, ils sont plus près là de leur destination qu'ils ne l'étaient avant d'y arriver. Alors ça les encourage. Et ils peuvent se réjouir d'être sur le bon chemin, d'être en direction de la destination qu'ils recherchent si profondément. Ils savent pourquoi ils sont là. C'est une étape en direction de ce qu'ils recherchent si profondément. Alors la semaine dernière, je vous parlais de l'occasion que j'ai eue de rejoindre Suzanne et sa famille en Suisse pour des vacances pendant qu'elle y était. Et on se fréquentait simplement, on n'était pas mariés à cette époque-là. Et je vous disais qu'au moment où on m'a invité à aller en Suisse, bien que les lieux des vacances n'étaient pas un lieu objectivement super, c'était quand même une vieille cabane en bois, enfin j'exagère un tout petit peu, mais il n'y avait pas d'eau chaude, pas d'électricité, tout ça. Malgré tout, ce lieu est devenu le lieu idéal pour moi, non pas en raison de sa valeur objective, mais en raison de la personne qui y était présente. Le psalmiste, c'est pareil. Il aime le temple, pas parce que le temple de la valeur en lui-même, mais parce que c'est là qu'il peut rencontrer Dieu. Les pèlerins qui chantent ce psaume, pareil, ils vont au temple, pas parce que le temple a de la valeur en lui-même, mais parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. Alors, quand Suzanne est partie en vacances avec sa famille en Suisse et qu'ils m'ont invité à les rejoindre pendant quelques jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté dans ma voiture et je suis parti vers la Suisse. Seulement, voilà qu'à mi-chemin, il s'est mis à tomber des pluies torrentielles, j'ai jamais vu ça, je crois que même depuis, on n'y voyait plus rien, les voitures roulaient très doucement, d'ailleurs moi la voiture que j'avais, c'était ma première voiture, c'était une voiture qui était plus vieille que moi, c'est dire, hein, une vieille 305 à 4 vitesses, enfin, oh, c'était, il y avait plein de raisons d'être inquiet, d'ailleurs j'ai vu plusieurs accidents sur la route, hein. Les conditions étaient horribles donc, et pourtant, je chantais à tue-tête dans l'habitacle de ma voiture. Pourquoi ? C'est bizarre. C'était pas parce que j'aimais la pluie, mais c'est parce que je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi j'étais là. Et l'homme qui connaît sa destination n'a pas la même perspective que les autres sur sa vie, sur la trajectoire de sa vie et sur les étapes de sa vie. Et par conséquent aussi sur les épreuves de sa vie, sur les moments difficiles, il n'a pas la même perspective que les autres. quand on a une vie qui est radicalement conditionnée par Dieu, quand on est cet homme dont la force est en Dieu, eh bien on sait pourquoi on est là au moment où ça ne va pas. On sait pourquoi. On sait qu'on est en chemin. On sait que ce n'est pas notre destination finale, ce moment d'épreuve. Mais qu'on est en chemin vers Dieu. Cette épreuve est une étape en direction de la destination que nous recherchons si profondément. Et donc, quand on a une vie qui est radicalement conditionnée par Dieu, on avance dans la vie en étant motivé par ce désir irrésistible, ce désir pressant de connaître Dieu, de le connaître davantage, d'être avec lui, d'être auprès de lui. Et pour cette raison, quand on traverse la vallée de l'épreuve, la vallée des larmes, la vallée de la souffrance, on peut à ce moment-là, étrangement, se réjouir et faire de ces lieux une oasis parce qu'on sait que c'est une étape nécessaire, une étape sur le chemin, une étape en direction de notre destination. Mais mieux encore, à cause de ce que nous dit la Bible, nous savons aussi que les épreuves sont des opportunités uniques de progression en direction de ce qu'on recherche, parce que la Bible nous explique que les épreuves, les souffrances sont des moyens que Dieu utilise dans la vie des gens qu'il aime pour rapprocher ces gens de lui. Donc c'est même pas des vallées qu'on traverse par accident. Bah zut, c'est pas de bol, sur le chemin il y a un orage. Sur le chemin il faut qu'on passe par la vallée du Baca. Zut, pas de bol, bah c'est pas grave, on va prendre notre mal en patience, on va chanter un petit peu et puis après on en ressortira, c'est bien. Non, c'est mieux que ça. Bien mieux, parce que en fait, Dieu met ces épreuves sur notre chemin exprès pour nous rapprocher de lui. Donc elles servent en fait, ces épreuves, à nous faire avancer en direction de ce que nous recherchons tant, qui est la communion avec Dieu. Raison de plus de se réjouir. Même la pluie qui tombe dans cette vallée, au verset 7, est une bénédiction. Mais comment peut-on en être sûr ? Comment avoir une telle assurance au milieu de l'épreuve ? Eh bien parce que troisièmement, les gens dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu sont des gens qui s'appuient sur des promesses fiables, à savoir les promesses de Dieu. Ce sont les seules qui sont vraiment fiables. C'est le troisième point. Vous savez, dans la Sainte Bible, Dieu promet aux croyants, à tous les croyants, à tous ceux qui se fie à lui, il leur promet qu'ils arriveront bien à destination auprès de lui. Verset 8, le psalmiste le dit d'une façon un peu prophétique et poétique, il dit « Ils, donc ces gens-là dont la force est en Dieu, dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu, verset 8, ils se présenteront devant Dieu à Sion. » C'est une affirmation. D'accord ? C'est une promesse, c'est un futur. Ils se présenteront devant Dieu, à Sion, c'est sûr. Ils ne vont pas mourir en chemin, ils ne vont pas se perdre en chemin. Ils ne vont pas faire marche arrière, ils ne vont pas retourner au point de départ. C'est une affirmation pleine d'assurance, vous voyez, de la part du psalmiste. Il connaît, lui, les promesses de Dieu. Je pense qu'il a écrit ce psaume avec une pleine conscience de ce que Dieu a promis. Et par exemple, ce qu'il a promis dans un autre psaume, celui qu'on a chanté il y a quelques instants. « L'Éternel gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Avec Dieu, tu es en sécurité, il te garde, il te préserve. Dieu a garanti notre arrivée à destination. Et cette garantie, il l'a signée avec le sang de son propre Fils, Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix, un sang précieux. Vous imaginez ça ? Que Dieu nous fasse ces promesses-là, la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ses promesses se réalisent. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix, au profit des croyants. Il n'est pas seulement mort sur la croix, ce serait déjà bien, mais ce ne serait pas suffisant si Jésus n'était pas aussi ressuscité, en vainqueur. Et donc par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a garanti, il a scellé de manière absolument certaine, il n'y a pas à en douter, qu'il nous gardera jusqu'au bout, qu'il nous préservera, qu'il ne laissera rien ni personne nous ravir de sa main si nous lui faisons confiance, si nous lui sommes attachés par la foi, par une foi personnelle. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul dans un autre passage, dans une épître encore du Nouveau Testament, il dit ceci. Ce sont des questions rhétoriques qu'il pose, mais qu'il pose pour vraiment appuyer sur le caractère évident de ce que je suis en train de vous dire, la sécurité qui est celle des croyants. Il dit ceci, mais si Dieu est pour nous, nous les croyants, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Hein ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Pour l'apôtre Paul, c'est une évidence, parce qu'il considère ce que Dieu Tout-Puissant, a fait pour racheter des hommes, des femmes, des enfants. Il a fait des promesses. Dieu a même juré sur sa propre sainteté pour attester la fiabilité de ses promesses. Mais non seulement ça, il a même envoyé son propre fils Jésus-Christ, qui a versé son sang, qui est mort et qui est ressuscité de manière triomphale. Tout ça pour nous attester, pour nous authentifier ses promesses. Alors si Dieu a fait ça, comment ne tiendrait-il pas ses promesses ? Quand nous lui faisons confiance, nous pouvons être absolument certains que Dieu nous gardera jusqu'au bout. Il nous fera arriver à destination, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, quels que soient les péchés dans lesquels on tombe, et même de manière récurrente. Il nous gardera jusqu'au bout. Ne nous donnera-t-il pas tout avec lui, par grâce ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voyager en stop, mais quand on voyage en stop, des fois on les voit, les autostoppeurs sur le bord de la route, ils sont là avec un panneau en carton qui indique la destination où ils veulent aller. Et ils espèrent tomber sur quelqu'un de bonne volonté, qui va bien vouloir les rapprocher un peu de cette destination. Donc si on est à Lyon et qu'on va aller à Montpellier, peut-être qu'on va tomber sur quelqu'un qui va nous déposer à Avignon. Puis ensuite, on va se remettre au péage, on va essayer de trouver quelqu'un qui va nous déposer un peu plus loin à Salon de Provence, puis peut-être un peu plus loin à Nîmes, et puis en fin de compte, on va arriver à Montpellier. Peut-être, on n'est pas sûr. En revanche, quand on achète un billet de train, on a aussi un bout de papier où c'est marqué notre destination dessus. Sauf que ce bout de papier, c'est la certitude qu'on a, que quand on monte dans le train à Lyon, on en ressort à Montpellier. D'accord ? C'est pas pareil. C'est mieux de voyager en train. C'est plus cher, mais c'est mieux. Mais vous savez, parfois, en tant qu'être humain, nous adoptons l'attitude d'un autostoppeur avec le Seigneur. Là, on tient un petit bout de carton. J'ai envie d'habiter dans ta maison. J'ai envie d'appartenir à ton royaume. J'aimerais bien y aller. Et on se dit peut-être que le Seigneur, il va nous prendre en stop pour une partie du voyage. Puis on va se remettre au péage et puis on va attendre que le Seigneur y repasse peut-être pour nous emmener un peu plus loin. On n'est pas tellement sûr si on va arriver au bout. Mais en fait, c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, il n'est pas là pour nous proposer un coup de main quand les choses vont mal. Il n'est pas là juste pour venir à notre secours quand on s'est perdu en route, quand le GPS marche plus. Dieu nous donne un billet de train, le billet de son train, dans son train, un billet pour son train. Et il garantit à tous ceux qui montent qu'ils vont arriver à destination. Et les gens dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu, les gens dont la force est en Dieu, comme dit le psalmiste ici, ce sont des gens qui sont montés dans le train de Dieu, qui font suffisamment confiance à Dieu pour le laisser conduire le train et les emmener à bon port. Et ils peuvent dire, ces gens-là, que chaque jour, ils sont plus près du but qu'ils ne l'étaient le jour précédent. Même lorsqu'ils traversent le mauvais temps, même lorsqu'ils traversent la vallée des larmes. Le psalmiste dit qu'au fur et à mesure du voyage, verset 8, leur force augmente, leur vigueur ne cesse de croître. On se dit, mais c'est pas logique. Ce sont des gens qui vont au temple en marchant, parfois de loin. Enfin, quand on fait une longue randonnée, on se fatigue au fur et à mesure de la marche, non ? Ceux-là, au fur et à mesure qu'ils avancent, leur vigueur augmente. Parce qu'ils savent qu'ils se rapprochent du but. Ils savent, avec chaque pas qu'ils font, qu'ils sont un peu plus près de l'arrivée qu'ils ne l'étaient juste avant. Se confier en Dieu, recevoir sa grâce en Jésus-Christ, c'est pas juste recevoir le pardon des péchés, c'est déjà bien, hein, être pardonné de ses péchés. C'est pas juste recevoir un ami qui va nous accompagner sur un chemin difficile, qui va nous tenir la main. Mais se confier en Dieu, avoir une vie radicalement conditionnée par lui, puiser nos forces en lui, c'est aussi recevoir, en plus de tout ça, une vie nouvelle, une nouvelle naissance. C'est en ces termes que la Bible nous parle de la foi. Non seulement une vie nouvelle, mais une vie qui est remplie du Saint-Esprit, qui nous donne cette croissance, qui renouvelle nos forces jour après jour, qui nous garde jusqu'à l'arrivée. Et cela parfois en dépit des apparences. C'est vrai que des fois, c'est compliqué de traverser les vallées, la vallée du Baca, la vallée des larmes. Et parfois, on n'a pas du tout l'impression qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Et c'est à ces moments-là qu'il faut replonger nos regards dans les promesses de Dieu. Accorder de nouveau notre attention et toute notre attention aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont plus fiables que notre jugement de la situation. Comprenez ça? Les promesses de Dieu sont plus fiables que notre propre jugement. Et donc quand on se dit non mais ça va pas là, attends, qu'est-ce que Dieu a promis? Et par quel moyen a-t-il scellé sa promesse? Ça c'est fiable. Ça c'est du costaud. Toi ce que tu ressens en ce moment précis, c'est moins fiable. Ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas les tourments même parfois. La détresse que l'on peut connaître, et certains héros de la foi sont passés par des moments très très difficiles. Ça ne fait pas disparaître tout ça. Mais comme le psalmiste dans d'autres psaumes, ça nous permet de nous reprêcher à nous-mêmes la vérité. Même si c'est uniquement intellectuel, ça commence en tout cas là. Mais reprêchons-nous la vérité. Dieu a fait des promesses et il les a scellées. Et elles sont certaines, bien plus certaines que notre propre jugement. On l'a lu tout à l'heure, ce verset du prophète Ésaïe. « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Voilà, vous voyez, cette deuxième strophe du psaume 84 donc, nous a parlé de ces hommes dont la vie était radicalement conditionnée par Dieu, des hommes, pour reprendre son expression, dont la force était en Dieu. Des gens, donc, qui renoncent à tout au profit de ce qui compte vraiment dans la vie, à savoir la connaissance de Dieu, connaître Dieu, habiter sa maison. Des gens, donc, qui savent vers quelle destination ils s'acheminent, des gens, par conséquent, qui considèrent les obstacles comme des opportunités de progression, de croissance, d'édification même. Des gens qui savent que Dieu veut utiliser ces épreuves pour les rapprocher de lui. Et ces gens-là s'appuient constamment sur les promesses de Dieu, en reconnaissant que Dieu a garanti la bonne fin du voyage. Chaque jour, même lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils peuvent dire qu'ils n'ont jamais été aussi près du but. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez que ce qui compte vraiment dans la vie, c'est de connaître Dieu? Est-ce que c'est ça qui vous donne votre sens des priorités chaque jour? Est-ce que vous voulez garder vos yeux fixés sur cette destination afin de maintenir sur votre vie et sur les épreuves et sur vos doutes et même sur vos péchés? Est-ce que vous voulez garder votre attention fixée sur Dieu pour que ainsi vous ayez la bonne perspective sur ces choses? Une perspective qui vous permettra d'avancer dans la joie, une perspective qui renouvellera votre courage, une perspective qui motivera votre persévérance. Vivre dans la dépendance de Dieu comme ça, en ayant une vie radicalement conditionnée par lui, je voudrais juste finir avec ça, c'est vivre dans la dépendance d'un Dieu, comme le dit le psalmiste ici, qui est à la fois le Dieu des armées et le Dieu de Jacob. Et c'est très intéressant qu'au verset 9, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais dans sa prière, le psalmiste invoque Dieu, il appelle premièrement Dieu des armées, et juste après Dieu de Jacob. Dieu des armées, ça veut dire le Dieu créateur, le Dieu des puissances célestes, le Dieu des anges, le Dieu des étoiles, le Dieu des galaxies. C'est lui que le psalmiste se permet d'invoquer. Et juste après, il dit, mais tu es aussi le Dieu de Jacob, le Dieu proche, le Dieu qui appelle les croyants par leur prénom, le Dieu qui est là, dans l'intimité de notre vie. Est-ce que vous en êtes là dans votre vie? Est-ce que vous avez ce privilège, cette chance de pouvoir appeler Dieu, le Dieu des armées, mais aussi le Dieu de Tédoué, de Faustine, de Sephora, de Gilles, de Maïlis, de Karine, de Thierry et des autres? Des fois, la vie, c'est dur. Où trouver le courage pour faire face aux épreuves? Eh bien, heureux les hommes dont la force est en Dieu. Heureux les hommes dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu. Amen.